Et par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités, édition du 25 octobre 2017, Hélène Denis au micro. En manchette aujourd'hui, le sondage controversé est suspendu. Soutien à domicile, état de panique, sauvé d'un incendie en s'accrochant au poil de son chien Mira. Une université devra verser 9 millions de dollars à une athlète devenue quadraplégique. Une femme avec une jambe prosthétique trouve une note méchante sur sa voiture, mais a la réponse la plus calme. En entrevue aujourd'hui, Barbara Tremblay, chef du service socio-communautaire à la direction de la vie communautaire de la ville de Lévis, et Maudie Macabari, candidat indépendant comme conseiller d'arrondissement à La Salle, district Cécile P. Newman à Montréal. Le sondage controversé est suspendu, c'est dans le journal de Montréal.com, un syndicat d'enseignants qui cherche à savoir combien d'élèves sont ordinaires ou à risque dans les classes a suspendu son sondage controversé le temps qu'un arbitre se penche sur la question. Le journal révélait dimanche que des parents étaient outrés et inquiets que la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, invite les professeurs à remplir un formulaire listant tous les élèves de leur classe et précisant s'ils ont un trouble d'apprentissage ou un plan d'intervention. Certains accusaient le syndicat de profilage de handicap. Or, le sondage n'est plus accessible puisque le syndicat et les commissions scolaires entreront bientôt dans un processus d'arbitrage, explique Sylvain Mallette, président de la FAE. En attendant, les données déjà reçues sont confidentielles et sécurisées, assure-t-il. Des gens ont réagi comme si on prenait la protection des renseignements personnels à la légère. S'ils nous avaient contactés, on aurait pu les rassurer. M. Mallette se dit convaincu que les enseignants ont le droit de transmettre ces informations à leur syndicat, car ce dernier est obligé de veiller au respect de leur contrat de travail. De plus, aucun nom d'élève n'a été transmis au syndicat. La colonne de nom ne sert qu'à l'enseignant lui-même au cas où un grief serait formulé. Et s'il devait prouver que la composition de sa classe ne respecte pas la norme, explique M. Mallette. Soutien à domicile, état de panique, c'est dans le Québec HuffingtonPost.ca, texte de Mathieu Francoeur, coordonnateur du mouvement FAS, et Simon-Philippe Caron, agent de défense des droits chez Ex Aequo. Pour une cinquième année consécutive, le protecteur du citoyen dénonce le laxisme dont fait preuve le gouvernement du Québec en matière de soutien à domicile. Dans son rapport annuel 2017, on constate une augmentation significative des plaintes déposées à son bureau. Ce constat fait écho à ce qui est observé chaque jour par les groupes de défense des droits des personnes en situation de handicap. Nous remarquons tous une tendance rapide et drastique à la réduction des services. Le rapport est accablant. Alors que le nombre de personnes ayant besoin de services à domicile est en constante augmentation, moins de personnes bénéficient de ces services et les personnes qui en reçoivent moins. Le Dr Barrette, récemment reconduit comme ministre de la Santé par Philippe Couillard malgré un remaniement, nie pourtant les importantes compressions tout en alimentant la confusion. Selon ses propos, le gouvernement aurait injecté 69 millions de dollars en soutien à domicile. Or, la totalité de ce modeste montant est consacrée aux services professionnels. Pas un dollar pour embaucher davantage de préposés ou d'auxiliaires dédiés aux personnes. Rien n'est donc prévu pour l'aide à la vie domestique. Rappelons que pour les personnes présentant une déficience motrice ou liée à l'agilité, l'aide à la vie domestique est essentielle pour s'alimenter, assurer leur hygiène, faire leurs courses ou leur ménage. Rappelons aussi que pour les personnes présentant une déficience motrice ou liée à l'agilité, alors c'est le même paragraphe ici que je vais vous relire avec une phrase complète. Rappelons que pour les personnes présentant une déficience motrice ou liée à l'agilité, l'aide à la vie domestique est essentielle pour s'alimenter, assurer leur hygiène, faire leurs courses ou leur ménage. Sans cette aide, les personnes doivent trop souvent se résoudre à quitter leur domicile et être logées en CHSLD. Et au bout du fil, Barbara Tremblay, chef du service socio-communautaire à la direction de la vie communautaire de la ville de Lévis, c'est bien Barbara et non Barbara.
Oui, c'est en plein ça.
Oui, alors comme Barbara Streisand. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour.
Alors, on est avec vous puisque Lévis s'attaque aux failles de l'accessibilité universelle dans son plan d'action 2017-2018. Parlez-nous de ce plan. De quelle façon allez-vous rendre le milieu municipal plus accessible aux personnes en situation de handicap?
Tout d'abord, la Ville de Lévis a toujours eu un plan d'action parce que c'est une obligation, mais aussi parce que c'est une conviction. Donc, s'attaquer à un plan d'action, ça prend d'abord une volonté des dirigeants de la Ville, et c'est le cas à Lévis. Autant au niveau des élus que de la direction générale, la notion de l'accessibilité, c'est une priorité et elle se traduit dans nos plans d'action, dans notre planification stratégique, mais aussi dans notre quotidien. Donc, dans le fond, on a mis en place un comité qu'on a revisité, là, je dirais, au niveau de sa composition l'année dernière, qui est lui responsable d'élaborer ce plan, mais de le suivre afin que tout ce qu'on a mis là-dedans puisse être, dans le fond, réalisé. Oui. D'ailleurs, on s'est vu la semaine dernière, puis déjà une grande partie de nos actions 2017 sont déjà en route, voire pour certaines achevées. Donc, bien sûr aussi, il y a des investissements financiers qui se rattachent à un plan d'action, notamment parce que la ville, c'est plus de 200 bâtiments, dont certaines parties ne sont pas adaptées dues à l'âge du bâtiment. Donc, dans son plan triennal d'immobilisation, la ville réserve annuellement un budget de mise à niveau. Donc, on s'y attaque bâtiment par bâtiment. Mais tous les nouveaux projets de construction à la Ville de Lévis maintenant sont pensés accessibles dès la conception ou lors de rénovations majeures. Donc, c'est, je dirais, un grand pas par en avant pour nous là, et pour les citoyens qui bénéficient de cette accessibilité-là.
Quand vous dites que vous vous attaquez aux failles, quelles sont ces failles-là?
On a, entre autres, l'année dernière, fait l'évaluation de certains de nos bâtiments en termes d'accessibilité. Donc, quand on voit, bon, par exemple, certains bâtiments, au niveau de l'accès, par exemple, aux salles de bain, donc, on s'est fait un plan de match sur certains bâtiments où il y a un plus grand achalandage des citoyennes et des citoyens. Et on s'est donné d'un plan d'action. Donc, on priorise annuellement des bâtiments à mettre à niveau. Par exemple, cette année, on a fait une grosse mise à niveau dans notre maison des jeunes à Saint-Romuald parce que on n'avait pas de maison de jeunes adaptée. Cette maison-là est centrale dans la ville. Donc, on y est allé d'un budget quand même tout près de 60 000 $ de mise à niveau pour cette maison de jeunes-là. Donc, quand je dis les failles, c'est qu'on s'est fait un plan de travail. On ne peut pas attaquer de front nos 280 bâtiments.
Étape par étape.
C'est ça. Par contre, toutes nos nouvelles constructions, la Ville de Lévis est effervescente, vous devez voir ça dans les médias, que ce soit nos constructions, bâtiments, mais on pense au Quai Paquet qui a quand même été conçu pour être accessible. Maintenant, ça fait vraiment partie des mœurs là, des gens de la Ville de penser dès le départ à l'accessibilité.
Mais tant mieux. Est-ce que Lévis dispose de leviers pour convaincre les entrepreneurs de construire ou bien de rénover en donnant un accès universel aux habitations?
En fait, là-dessus, on travaille très fort. En fait, nos leviers, c'est beaucoup dans notre persuasion. Pour les persuader, pardon.
Oui.
Si je pense aux logements sociaux, par exemple, dorénavant, dans notre grille d'analyse pour l'attribution de nouveaux logements ou projets en logements sociaux, le critère de l'accessibilité est systématique maintenant. Donc, nos promoteurs doivent rencontrer ces exigences-là afin que la Ville puisse les soutenir. Donc, ça, c'est des leviers très concrets. Nos promoteurs en sont avisés. Puis, je pense aussi qu'ils sont bien heureux de ça, entre autres, au niveau du dossier du logement social. Pour les des projets plus avec l'entreprise privée. Donc, on tente le plus possible les persuader de mettre de l'avant certaines mesures pour, dans le fond, toujours être plus accessible pour notre population, là.
Et pour les enfants en situation de handicap à Lévis, quelles sont les mesures qui ont été prises?
Plusieurs. Je dirais que les principales mesures, c'est notre camp de jour. Puis ça, j'en suis très fière. On en est tous très fiers. La ville de Lévis, son camp de jour est pensé accessible depuis des années. Cette année, on a eu quand même 88 enfants qui ont été accompagnés par le biais d'un accompagnateur individualisé. On a vraiment une vision de permettre aux enfants de s'intégrer. On rencontre les parents aussi préalablement à la saison de camp de jour. On a développé des outils pour mieux les informer, pour avoir accès aux services. Donc, c'est vraiment pour nous non négociable que tous les enfants de la ville doivent avoir une offre de service camp de jour sans égard à leurs difficultés. Mm-hmm. On a aussi le programme Accès loisirs à Lévis, qui est un programme où on met en disposition une offre de services de loisirs pour les enfants qui ont des problèmes soit moteur ou des problèmes financiers, des fois juste d'accessibilité. Donc, il y a des efforts de fait aussi dans notre offre de services loisirs par rapport à la clientèle et aussi travailler en collaboration avec nos organismes qui donnent des offres de services loisirs aux enfants. On les soutient par rapport à ça. Donc, je pense au soccer cette année qui a élaboré quand même, qui a fait un gros pas pour du soccer adapté. Donc, la ville, on est en soutien à ce moment-là auprès d'eux. Là.
C'est très encourageant de vous entendre. On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques secondes les programmes secours adaptés, le programme d'assistance individuelle aux personnes handicapées ou vous nous invitez à aller sur votre site Internet?
En fait, c'est deux programmes, puis j'ajouterais peut-être Texto 911, qui n'est pas tout à fait bien connu non plus pour les personnes malentendantes. Les gens peuvent aller sur notre site ou appeler au service à la clientèle, ceux qui sont peut-être moins habiles sur Internet, mm-hmm. au 835-4960. Mais dans les trois cas, il faut s'inscrire. Dans le cas du programme PAIR, le Centre d'action bénévole envoie chez la personne un bénévole pour bien remplir le formulaire et s'approprier. Mais c'est des programmes qui visent à nous assurer le plus possible la sécurité de nos gens qui ont des problèmes de mobilité. Parfait. Donc, j'invite vraiment les gens, tous ces programmes-là sont sans frais, accessibles et ça nous fera plaisir par le biais de l'Internet ou du téléphone de bien répondre aux questions des gens sur ces trois programmes-là.
Merci beaucoup, Barbara Tremblay, chef du service socio-communautaire à la Direction de la vie communautaire de la ville de Lévis. Je pense que je vous ai coupé un peu la parole.
Non, c'est bien correct. Merci, parce que je suis volubile. C'est un sujet qui me passionne. Donc.
Oui, ça paraît. Vous êtes passionnante aussi à entendre. On va s'en reprendre, c'est sûr.
Bon, mais je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité, puis que les gens se sentent bien à l'aise de communiquer avec nous. Ça nous fera grandement plaisir.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Sauvée d'un incendie en s'accrochant au poil de son chien Mira, une nouvelle dans le journal de Montréal.com. Un chien Mira a sauvé la vie de son maître handicapé pris dans un incendie qu'il venait de provoquer accidentellement en faisant de menus travaux dans sa maison de Sorel-Tracy. L'homme qui est en fauteuil roulant, en plus d'être sourd et muet, l'a échappé belle. Sa conjointe est venue témoigner de cette histoire peu banale à l'émission de Denis Lévesque. Mon conjoint faisait un peu de soudure. Il a échappé la torche à souder et le feu a éclaté, a raconté Sylvie Potvin, également en prise avec un handicap qui la force à se déplacer en fauteuil roulant. Il ne voyait plus rien. Il a essayé d'arroser, mais ça n'a pas marché. Il est tombé de son fauteuil, puis là, ça l'a peut-être sauvé parce qu'il aurait été trop dans la fumée. Tandis que le pauvre homme se trouvait au sol, son chien Mira s'est dirigé vers lui pour le sortir de sa fâcheuse position. Il est venu lui chercher le bras, puis mon conjoint s'est accroché dans son poil et en se poussant d'une main, le chien l'a tiré jusqu'à la porte de l'ascenseur de maison. Le conjoint de Mme Potvin a ensuite été capable d'ouvrir la porte avant de sortir à l'extérieur, où il s'est étendu dans le stationnement à la pluie. C'était le lundi de l'Action de grâce. Le livreur de circulaire a remarqué sa présence. Les pompiers n'ont pas mis de temps à arriver. Personne n'avait constaté qu'il y avait un début d'incendie. Le chien est très bien entraîné, a reconnu Sylvie Potvin, qui possède elle-même son propre chien guide. Tout est une question de réflexe, a nuancé le directeur de la Fondation MIRA, Nicolas Saint-Pierre, sur le plateau de l'émission de Denis Lévesque. La Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a investi plus d'un million de dollars depuis les cinq dernières années pour améliorer les soins et les services offerts dans l'établissement sur le site de l'autrevoie.com. La Fondation a tenu son Assemblée générale annuelle en septembre dernier, où elle a fait le bilan de ses plus récentes réalisations. En plus d'élire un nouveau conseil d'administration, elle en a profité pour présenter ses bons coups des dernières années, question de démontrer que l'argent amassé fait réellement une différence au sein de l'Institut de santé. Parmi les réalisations les plus récentes, on trouve l'installation d'un auvent extérieur trois saisons, très apprécié des résidents, mais aussi des employés. La Fondation a aussi permis d'aménager un condo tout équipé à même l'hôpital où les familles peuvent être hébergées gratuitement lors de la visite d'un proche. Les résultats du premier volet de la campagne majeure de financement ont également été dévoilés lors de l'Assemblée générale. Celle-ci a donné lieu à un réaménagement complet des soins palliatifs de l'hôpital. Les chambres comprennent désormais un lit escamotable supplémentaire ainsi qu'une causeuse, une grande fenêtre et une commode. Les salles communes, comme la cuisine et le salon de recueillement, ont aussi été repensées. Plusieurs autres investissements ont été réalisés. L'hôpital a notamment acquis un appareil d'échographie pour le personnel de l'urgence. Des équipements spécialisés en cardiologie et en électrophysiologie ont aussi été achetés. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Maudie Maca-Barry, candidat indépendant comme conseiller d'arrondissement à La Salle, district Cécile P. Newman à Montréal. Bonjour, M. Barry.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à faire le saut en politique?
Je me présente à vous, je suis Maudie Maca-Barry, fondateur de l'organisme non gouvernemental Handicap Action Intégration. Mm-hmm. Donc, c'est un organisme qui essaie de ressortir les quoi les personnes à mobilité réduite sont capables de faire derrière l'handicap physique.
Oui.
Donc, je me présente en politique, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, pour votre information. Mm-hmm. Les élections de 2013, j'étais dans l'équipe de M. Richard Bergeron, l'équipe de Projet Montréal.
Oui.
Et cette année, j'ai décidé d'aller candidat indépendant à l'arrondissement de La Salle pour les postes de conseiller d'arrondissement.
Alors, vous vous déplacez en quadriporteur. Est-ce que c'est difficile de faire de la politique lorsqu'on est en situation de handicap?
D'accord. Donc, c'est ça que je vais vous mentionner. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est difficile parce que j'ai beaucoup de bénévoles derrière moi. Le plus difficile, c'est d'aller faire porte à porte. Mais j'ai des bénévoles qui le font pour moi et puis on sort ensemble. Les citoyens, ils sortent, s'ils veulent me parler, ils descendent pour me parler, sinon
oui.
Je les parle à distance.
Est-ce que ça se passe bien jusqu'à maintenant?
Ça se passe très bien.
Oui, et pour vous, selon vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap dans la sphère politique?
Bon, c'était très... Depuis 17 ans, je suis à Montréal, mais je pense que j'ai été la première personne qui s'est présentée comme candidat aux élections municipales.
Pourquoi vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup?
Bon, à ma connaissance, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a la majorité, on ne les encourage pas, c'est tout.
Mm-hmm.
On ne les encourage pas, ils essaient toujours de mettre l'handicap de la personne devant.
Oui.
Alors qu'un handicap, ce n'est pas la fin du monde, vous comprenez?
Alors, quoi faire pour changer la situation?
La meilleure façon de changer la situation, c'est les politiciens. Une fois, et puis deuxième fois, c'est vous, les journalistes, qui doivent essayer de ressortir de quoi les personnes à mobilité réduite sont capables de faire.
Oui.
Comprenez, mais si on parle seulement les besoins de ces personnes-là, on n'ira nulle part.
Mm-hmm.
Je pense que le moment est arrivé pour qu'on s'implique et puis qu'on essaie de prouver de quoi nous sommes capables de faire pour contribuer au développement de la société.
Et vous avez été directeur de l'organisme Handicap Action Intégration. Est-ce que ça a contribué à votre conscientisation ou votre décision de faire de la politique là, depuis avant 2013?
Là? Oui, bon, j'ai créé l'organisme en 2012.
Mm-hmm.
Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes à mobilité réduite. Quand j'ai créé ça, beaucoup me disaient que bon, ça va être difficile, tu es en fauteuil roulant. C'est là,
ah, les gens ne vous encourageaient pas à,
pas du tout,
à faire le saut?
Pas du tout. Pas du tout. Même maintenant, c'est les mêmes personnes qui me disent « Ah, oh, tu es courageux, c'est la même chose. » Oui, c'est une question de courage, mais ouais. Il y a la question de volonté aussi. C'est l'environnement qui complète la vie d'une personne, vous comprenez? Si on est encouragé, l'environnement est propice, il y a plein de choses qu'on pourra faire. Plein de choses qu'on pourra faire.
Oui, mais vous avez cru d'abord et avant tout en vous, puisque au début, vous étiez découragé par votre entourage.
Justement, il faut avoir la croyance et puis défier ton handicap. Faut pas, dès que tu mets l'handicap devant, c'est ça un handicap d'ailleurs pour moi.
Ouais.
Vous comprenez? C'est ça l'handicap. C'est quand tu n'acceptes pas la condition.
Uh-huh.
Et quand tu acceptes la condition d'handicap, il y a plein de choses que tu pourras faire pour faire tout un changement à d'autres personnes aussi.
Oui.
C'est ça.
Et si vous êtes élu, M. Barry, quel sera votre principal cheval de bataille?
Mon principal cheval de bataille, d'abord, c'est de prouver encore une fois de plus, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite par l'emploi. Ça, c'est une chose qui me tient beaucoup au cœur.
Mm-hmm.
C'est de ressortir de quoi les personnes handicapées sont capables de faire aussi. Et ils sont là, pour, c'est pas seulement pour des besoins, mais ils ont plein de trucs qu'ils peuvent partager pour faire un avancement au niveau de la société.
Pourquoi c'est votre priorité?
C'est pas ma priorité principale, j'ai 5 priorités qui me tiennent beaucoup au cœur. Par exemple, briser l'isolement des personnes âgées, et puis prendre soin des enfants à l'école, les enfants démunis. Donc, c'est des choses qui me tiennent beaucoup au cœur.
Mm-hmm. Alors, ben, Maudit Maka Barry, candidat indépendant comme conseiller d'arrondissement à la salle district Cécile Pignoumen à Montréal, merci d'avoir pris le temps de nous parler parce que j'imagine que votre temps est précieux de ce temps-ci.
Ça m'a fait énormément plaisir et une fois de plus, je compte sur vous, sur tous les journalistes pour essayer de parler de quoi les personnes à mobilité réduite sont capables de faire aussi.
Oui, nous faisons cela à chaque jour à Canal M de Vues et Voix. On y croit.
Ça me fait droit au cœur de vous parler.
Merci, M. Barry.
Merci, bonne journée.
Une université devra verser 9 millions de dollars à une athlète devenue quadraplégique, c'est sur TVANouvelle.ca. L'université de Regina, en Saskatchewan, a été jugée négligente par un jury à la suite d'un accident de plongeon survenu en 2005 au cours duquel Miranda Biletsky est devenue quadraplégique à l'âge de 16 ans. C'est un jury composé de 6 personnes qui a vendredi déclaré l'université de Regina comme étant responsable de ce tragique accident et a accordé à la plaignante plus de 9 millions de dollars de dommages et intérêts. L'avocat de Miranda Biletsky, Alan McIntyre, a affirmé au Global News que sa cliente était soulagée que l'affaire soit terminée. Quand le jury a donné son verdict, elle a pleuré. Il est finalement reconnu que la faute venait de l'université et non d'elle ou de son club de natation, a confié Maître McIntyre. Tout au long du procès, l'avocat a soutenu que la piscine n'était pas sécuritaire, tandis que l'université a toujours rejeté la responsabilité sur la jeune athlète. Il y a 12 ans, Miranda Biletsky a plongé dans une piscine de l'université lors d'un entraînement. L'adolescente a heurté le fond, se fracturant les vertèbres cervicales, la rendant quadraplégique. À cette époque, elle était une nageuse prometteuse et jouait au water polo en compétition. En 2010, elle a rejoint Équipe Canada au championnat du monde de rugby en fauteuil roulant. Elle est la première femme à avoir joint l'équipe canadienne. Sur epochtimes.fr, une femme avec une jambe prosthétique trouve une note méchante sur sa voiture, mais a la réponse la plus calme. Une jeune femme avec une jambe prosthétique se gare souvent à une place handicapée accessible près de son travail. Un jour, elle a trouvé une note anonyme sur son pare-brise disant qu'elle devrait avoir honte. Prenant la remarque du bon côté, elle dit s'être sentie flattée. Natasha Hope Simpson a perdu sa jambe sous le genou après un accident en 2013. En la regardant, on pourrait facilement ne pas remarquer son handicap alors qu'elle a fait un gros effort pour marcher normalement. Ancienne étudiante en art et diplômée de l'Université d'art NSCAD de Halifax au Canada, Natasha a également conçu ses propres prothèses très esthétiques d'art portable en utilisant la technologie d'impression 3D. Elle a indiqué à CBC ce qu'elle a trouvé. une note de quelqu'un disant qu'il m'avait enregistré marchant hors de la voiture et que je n'étais pas handicapé, que je devrais avoir honte de moi-même et qu'ils allaient envoyer mon numéro d'immatriculation à la police si je me garais de nouveau. L'accusateur de Natacha avait peut-être manqué de voir son étiquette pour handicapé suspendue à son rétroviseur. Pour Natacha, malgré son choc initial, elle a offert une réponse calme. « Je suis plutôt flattée de cela, car j'ai travaillé dur sur ma marche pour qu'elle semble naturelle. » Sur le site génétique.org, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies affirme dans un document officiel que l'avortement en raison d'un handicap chez le fœtus est contraire à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Dans ce même document, le comité explique que ce type d'avortement est souvent basé sur des diagnostics erronés qui, même s'ils ne sont pas faux, entretiennent le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse. Cette déclaration est d'une grande importance et prend également position contre un prétendu droit à l'euthanasie qui perpétue les idées reçues selon lesquelles les personnes gravement handicapées souffrent et seraient plus heureuses mortes. Cette déclaration intervient alors que le Comité des droits de l'homme a entrepris de réinterpréter le droit à la vie, comprenant un droit à l'avortement tout particulièrement lorsque le fœtus présente des malformations mortelles. Le Comité des droits des personnes handicapées demande le retrait de cette affirmation. Le European Center for Law and Justice rappelle qu'en 1947 également, les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme durent s'opposer à la tentative visant à permettre la prévention de la naissance d'enfants handicapés mentalement et d'enfants nés de parents souffrant de maladies mentales. Série documentale lors du Festival du film sur la maladie mentale, au contraire, que faites-vous le jeudi 26 octobre à 15h? Cette année encore, le Raccord en santé mentale vous invite à la série documentale en partenariat avec Paradis Urbain et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ce programme spécial a été conçu comme une occasion de ralliement pour tous les membres, partenaires et amis du Raccord. Au programme, 6 courts-métrages en français ou sous-titrés. La projection dure environ une heure et sera suivie d'un panel de discussion avec les réalisateurs Stéphane Lapointe et Albéric Ortenetsch. Pour plus d'informations, vous allez visiter le site du Festival du film sur la maladie mentale. Ici Hélène Denis, merci à toute mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique, ainsi qu'à mes invités d'aujourd'hui, Barbara Tremblay et Maudie Maca-Barry. À bientôt.